Bienvenue sur France Bleu Périgord, nous sommes le 17 avril, il est 7h. Les infos, Thibaut Delmarle.
Bon, je vois un beau ciel bleu au-dessus de Périgueux, mais ça va pas durer. Hein.
Exactement, petite éclaircie, on en profite. En fait, ça va être comme ça régulièrement dans la journée, des passages plus gris, des passages avec un petit peu plus d'éclaircie et des températures qui vont monter jusqu'à 15 degrés. Le département est une nouvelle fois condamné à payer une amende pour ne pas avoir terminé de détruire le chantier de la déviation de Beynac.
Oui, plus €1,4 million, hein, ce qui correspond à des astreintes journalières qui courent depuis l'été dernier, à la fois pour ne pas avoir fini la destruction et pour avoir commencé trop tard cette démolition demandée depuis 5 ans. Déjà l'année dernière, le département a dû signer un chèque pour ses retards, un chèque parti dans les poches des opposants au projet, et c'est encore une fois le cas cette année pour une partie de ce montant, ce qui ulcère le président du département, Germinal Perrault.
Tout ça, c'est une interprétation du droit. Donc on voit bien que les choses sont pipées et qu'il y a un acharnement contre la collectivité pour servir qui ? Pour servir 2 ou 3 châtelains et les amis des associations écologistes. Voilà, c'est très clair aujourd'hui.
Et c'est une victoire pour les opposants qui les confortent dans leur position. Philippe Daubonne, le président de l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et qui est un opposant historique à la déviation de Beynac, assure qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette histoire, notamment pour son association qui va en bénéficier.
Sa déviation de Beynac, je crois qu'il peut mettre maintenant un chapeau par-dessus et ne plus en parler. Il faut qu'à un moment donné, ce jeu s'arrête. Et l'amende retourne à l'État d'une part et à d'autre part aux gens qui ont eu la volonté, la force et la diligence de consacrer des centaines d'heures pour faire comprendre que la loi, elle est pour tout le monde.
Et la deuxième version
en Dordogne, c'est pas le cas.
Et la deuxième version du projet est en ce moment à l'étude dans les mains du préfet de la Dordogne, un projet qui reprend des éléments déjà construits pour le premier. Un homme de 78 ans a été blessé après un accident de la route hier à Cornille. Cet homme qui était au volant de sa voiture a refusé une priorité à droite et il a percuté une autre voiture. Il a été emmené à la clinique Francheville pour des examens du dos. Un policier souffre d'une double fracture à cause d'un refus d'obtempérer. Lundi soir, à Pau, le conducteur d'un scooter a foncé sur ce policier à pied qui lui demandait de s'arrêter. Il roulait dans le centre-ville sans casque et avec une cagoule sur la tête. Le secrétaire départemental adjoint du syndicat dans les Pyrénées-Atlantiques, Daniel Demanger, est scandalisé. Surtout que selon lui, le fuyard a fait exprès de foncer sur le policier.
Il a foncé délibérément sur notre collègue, oui. Quitte à le blesser grièvement, voire le tuer. Voilà. Donc les collègues se sont aperçus que, il n'y avait pas de clé sur le scooter, mais que les filles avaient été dénudées pour démarrer le scooter. Le scooter, en effet, était volé. Donc, pour un simple scooter volé, les voyous sont prêts à tuer un flic. C'est ce qu'on dénonce à Alliance depuis des années, c'est la haine anti-flic et c'est cette insouciance des auteurs de ce genre d'infraction. Ce sentiment d'impunité, comme quoi on peut renverser, voire tuer un flic uniquement pour se soustraire à ses responsabilités et ne pas répondre à la justice. Donc effectivement, on est en colère parce que ça fait un moment qu'on le dénonce et on attend des réponses fermes de la part de la justice et que cet individu aille en prison, parce que quand on s'en prend à un flic, en prison qu'on doit finir.
Et le conducteur de ce scooter a été arrêté par la police et il est désormais en garde à vue. L'assurance maladie va un peu moins rembourser les consultations chez le médecin. Le reste à charge va augmenter de 1 euro. À partir du 15 mai, ce sera donc 2 euros. Une augmentation qui devrait servir à limiter le déficit de la sécurité sociale.
Les pompiers, les propriétaires de châteaux se sont rencontrés pour mieux préparer d'éventuels incendies.
Et oui, avec notre millier de châteaux en Dordogne, les pompiers sont souvent désemparés. Hein. L'architecture, les œuvres d'art, les trésors parfois, que faut-il sauver en premier ? Mathieu Bonnour, vous avez rencontré ces châtelains qui redoutent particulièrement les incendies de leur vieille bâtisse.
Dans la cour médiévale où les propriétaires de châteaux se réunissent, Henri de la Tour du Pin, du château de Jumiac, se souvient encore d'un départ de feu il y a quelques années.
Dans un compteur électrique, et ça commençait à fumer bleu, il y avait des étincelles partout, quoi. Et donc j'ai éteint tout, comme le grand méchant loup dans les petits cochons là. J'ai soufflé comme ça, j'ai tout éteint.
Un souvenir difficile. Chaque jour, il est aux aguets du moindre signe d'incendie dans ces 3000 mètres carrés.
J'ai encore des frissons dans le dos, si vous voulez, parce que c'est une surveillance de tous les instants.
Au château depuis depuis Martin, Marie-Sophie Rouchon, la fille des propriétaires, met le paquet sur la protection.
Depuis quelques années, tout le système électrique a été revu. On a un système d'alarme, de détection de fumée également. Chaque année, on essaye de compléter avec des caméras.
Directement reliée à son téléphone, elle peut tout surveiller en direct. Les pompiers demandent aussi une liste des objets à sauver par ordre d'importance.
C'est difficile, on ne peut pas dire qu'est-ce qui est le plus important ou pas. Tout est important. Si ça a été conservé, c'est qu'il y a une importance.
Les propriétaires de châteaux ressortent motivés pour installer des détecteurs de fumée connectés ou des caméras pour mieux se protéger.
Et les pompiers vont bientôt aussi recevoir des plans de préservation de ces châteaux, justement pour mieux les protéger individuellement et les sauver. Une bien triste nouvelle ce matin pour Sarlat. Louis Billac, une figure du centre-ville, est mort vendredi dernier. On l'a appris hier, ce cordonnier à l'ancienne cherchait un repreneur il y a tout juste 3 mois pour son commerce. On avait relayé son appel ici sur France Bleu Périgord. La nouvelle de son décès surprend tout le monde. Le maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti.
C'était une identité à Sarlat, avec ses moustaches. Il était agréable, bon vivant, jovial. Il était le seul cordonnier qui restait à Sarlat. Il avait une propension particulière aussi pour ses chaussures. C'est un peu mexicaine, avec les talons, ses chaussures décorées. Il en avait toute une série et toute une collection. J'ai été stupéfait. Parce que s'il y a bien quelqu'un dont je pensais qu'il prenait sa retraite et qu'on le verrait un peu partout, c'est bien lui. Il me paraissait vraiment 2 ou 3 jours avant, solide, en pleine forme, heureux d'être libéré de toute contingence professionnelle. Ça a été vraiment un choc pour tous les Sarladais, parce que tout le monde le connaissait.
Et les obsèques de Louis Billac, qui était aussi appelé Moustache. Les obsèques, donc, ce sont demain à 10h30 à la cathédrale de Sarlat. Et puis, on termine avec du foot et l'exploit du Paris Saint-Germain hier soir, qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Une victoire 4-1 face au FC Barcelone.